Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem Nível na vossa companhia neste domingo, dia 13 de novembro e até às 14 horas. Relembro, Passagem Nível com a redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Equivalentemente, iremos falar do Brasil e da eleição do Lula da Silva, presidente que programa, que governo. Muitas interrogações. Depois iremos falar do Orçamento Geral do Estado 2023 em Portugal, com severas críticas da oposição. Hoje ouviremos o coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas, José Cesário. Um pouco mais tarde, Santa Casa da Misericórdia organiza no dia 19 de novembro um jantar de gala na Sala Vasco da Gama para angariar fundos. E pela terceira vez iremos até Conhaque para falar do Festival de Literatura Europeia. De Conhaque, Portugal é o convidado de honra e teremos uma ilustradora, para além da presidente do festival, sem esquecer a realizadora Cristel Alves Meira e do seu filme Alma Viva. E finalmente a exposição Lusitânia, Pinturas e Esculturas, igualmente a apresentação de um livro de Nathalie Afonso na Mairie du 7e. Déjà, on part au Brésil, mais on passe par Paris. Fred Lira, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes membre de l'association Autre Brésil. J'ai dit au début, quand j'ai annoncé justement le menu de passage à niveau, justement, Lula da Silva est élu, très bien, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut se rappeler quand même que M. Bolsonaro a mis 48 heures à reconnaître qu'il avait perdu les élections.
Ouais, et même il faut le dire bien que la prise de parole de Bolsonaro, quand il a, soi-disant, reconnu, ce n'était pas vraiment une reconnaissance. Il n'a pas vraiment reconnu. Bon, il a dit, ouais, j'ai plus ou moins perdu. Mais il n'a pas dit, reconnu la présidence. Il n'a pas, et c'était très ambigu. C'était plutôt, on peut le dire, une sorte de message crypté. Il faut vraiment écouter deux fois, parce qu'on n'est pas habitué à leur langage. Mais c'était plutôt un message crypté à leurs supporters en disant, si vous voulez, on peut interpréter, si vous voulez, de manière directe, quelque chose comme la lutte continue ou même la guerre continue pour eux. Et on a vu, on voit encore. Donc, c'est plus ambigu.
Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, il faut qu'on se rappelle qu'il y avait des barrages sur les routes, qu'il y avait énormément de manifestations. Il a dit, bon, je comprends que les gens manifestent, etc. Bon, ne faites pas trop de dégâts quand même. Mais il disait, bon, reconnu sans reconnaître. Mais maintenant, Lula da Silva, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on sait que comment est-ce que pourra gouverner, dans la mesure, bon, on sait que c'est la droite qui a gagné la plupart des États, qui a gagné, disons, les élections. Comment gouverner avec un pays qui, en plus, il vit une crise économique énorme?
Ouais, bon, ça, c'est la question de 1 million de dollars. Vous voyez, si j'aurais une réponse, je ne serais pas à la radio, mais je serais en train de faire ma poche et devenir milliardaire, parce que c'est vraiment la réponse qu'on peut pas vraiment répondre de manière objective. On peut faire vraiment de la spéculation, parce qu'il faut... Il faut voir, bon, la situation internationale et tout ça. Et on peut rappeler que surtout le gouvernement Lula de 2003 jusqu'à 2010, c'est un petit peu le premier gouvernement de Dilma à la suite. Il a eu la chance d'avoir le boom de commodities, une certaine nouvelle situation internationale avec la croissance de la Chine augmenter la demande de matières premières et du coup il a pu avoir une certaine croissance, paradoxalement en pratiquement détruisant même ça le reste qu'il avait d'industrie et redevenant un pays d'exportation de matières premières, soit du soja, soit du pétrole, soit des minières, etc. Donc c'est un pays extractiviste et c'est beaucoup ce retour à l'extractivisme qui a permis que le pays ait une certaine croissance, une certaine redistribution de rentes, etc. C'était les années Lula. Donc on peut imaginer que cette situation dans un monde qui entre en guerre, qui on est dans la possibilité de croissance chaque jour, ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale, une nouvelle guerre froide, etc. C'est difficile d'imaginer qu'un nouveau boom de commodities qui puisse donner support, fondement à une croissance ou à une nouvelle manière de l'argent, quoi, pour gouverner, pour pouvoir distribuer et refaire certaines choses qui ont été faites dans le passé. C'est très difficile d'envisager que soit puisse revenir dans cette situation mondiale.
Oui, dites. Non, mais justement, à ce propos, il faut se rappeler toutes les mesures qu'avec le gouvernement Lula ont été prises pour le peuple, une partie du peuple, et c'est une grande partie du peuple brésilien qui vivait dans la précarité. Alors aujourd'hui, justement, au point de vue économique, vous avez bien fait de expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la première fois que Lula a été élu, puisqu'actuellement, bon, sauf erreur de ma part, il y a 33 millions de Brésiliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. 33 millions.
Ouais, et pas que ça, disons. Et enlever le queue, parce que c'est un numéro énorme. C'est imaginable,
oui,
même.
Oui, tout à fait.
Mais en plus des 33 millions de gens qui sont au-dessus du seuil de la pauvreté, il faut voir que environ la moitié de la population, on va dire 5 millions de personnes, environ ce numéro, disons, moitié de la population est activement au travail, elle est dans des boulots extrêmement précaires. Donc, en plus, la destruction de force de travail et la quantité de travail, l'augmentation de journées de travail, la diminution des salaires et des revenus des gens, elle a explosé. Donc, en plus des 33 millions dans la misère, il y a un marché du travail qui a été complètement détruit. Et il a été complètement détruit, beaucoup, par le gouvernement intermédiaire entre Dilma et Bolsonaro. C'était le gouvernement Temer qui avait la mission de détruire le reste qu'il avait de loi du travail, de flexibiliser encore plus. Et il faut bien le dire que ce gouvernement, donc de Temer, il a été supporté par toute la droite soi-disant cosmopolite, on va dire, qui est bien représentée par le vice-président actuel, Gerald Alckmin, qui était aussi supporteur, par Fernand Henrique, qui était l'ancien président, oui, par tous les juges là qui sont soi-disant devenus des héros nationaux, enfin un peu de manière très naïve pour la gauche. Donc tous ces gens qui maintenant sont avec Lula sont eux qui ont organisé le coup d'État de 2016, qui ont organisé le gouvernement Temer, et sont eux, autant que Bolsonaro, il faut le dire, les responsables pour la situation actuelle, parce que sont eux qui ont ouvert la boîte de Pandore, et dont Bolsonaro a bien profité, parce qu'il est fou, mais c'est loin d'être un imbécile. Enfin, il sait jouer le jeu. Du coup, il a profité, il a entré pour être gouverné et augmenter la destruction. Mais il faut bien se rappeler que la destruction, elle démarre beaucoup avant. Elle démarre 2016, et même on peut déjà Dilma, la chose, elle empirait, mais c'était plutôt de manière contrôlée.
Alors,
donc la situation, oui, c'est pas faux. C'est, disons, on parle, juste pour conclure, on parle beaucoup en France de ces 33 millions dans la misère, parce que c'est le numéro plus choquant. Mais il faut bien voir que la situation des travailleurs, du monde du travail, elle est énormément dégradée. Et moi, je pense qu'on parle peu de cela ici, parce que comme ici aussi, il y a des politiques de dégradation du monde du travail, aussi par le gouvernement Macron et par tous les autres gouvernements de l'Union européenne, l'austérité, etc. Donc on insiste peu ça, parce que c'était des mesures d'austérité qui étaient très inspirées des mesures de l'Union européenne qui ont été faites au Brésil et qui a détruit, augmenté la destruction de la société.
Et alors
Oui.
Non, et quand on parle justement de destruction, ce sera ma dernière question, frère de Lire. On revient à l'Amazonie. Alors apparemment, depuis l'élection de Lula, fin octobre, pendant un mois environ, il y a quelque chose comme 904 km² qui ont brûlé, à savoir, on dirait que finalement ça continue la destruction de l'Amazonie, il y a les peuples indigènes, il y a tout ça, bon, et tout ça pour produire quoi? Du soja, etc. Et tout ça, donc il y a tout ce côté-là aussi très important pour le bien-être des peuples du Brésil, qui est en train d'être détruit, d'être brûlé.
Oui. Bon, il faut voir qu'est-ce que ça peut être fait. C'est vraiment une énorme question, parce que c'est le cœur de la... l'enjeu le plus important au niveau national et au niveau international. Bon, on peut imaginer que si l'Amazonie, elle est détruite, le monde est fini avec. C'est comme si c'était une sorte de guerre nucléaire à retarder, parce que les effets... Enfin, la quantité, par exemple, de bactéries, de virus, et tous les scientifiques en parlent, hein, plusieurs, qui sont là en train d'être contenus et qui pourraient amener reproduire des pandémies, des choses horribles, un peu, sont même inimaginables. Mais Bolsonaro, donc le gouvernement Bolsonaro, une de ses mesures les plus impressionnantes, et qu'il a vraiment réussi à casser, à finir pratiquement toute institution de l'État qui arrivait à plus ou moins gérer ou réguler la destruction de l'Amazonie. Et ça ne va pas être simple de remettre en place beaucoup, parce que le centre du PIB brésilien, le cœur de l'économie brésilienne, elle est de plus en plus le soja, exactement. Le soja, le coton, enfin le bœuf, toutes ces choses et l'expansion de toute cette partie de l'économie qui est le centre de l'économie, et aussi d'extraction minière, où il y a plein d'entreprises européennes, par exemple l'entreprise de Norvège, qui sont en train d'extraire des minières en Amazonie, et aussi tout ce que vous pouvez imaginer. Donc tout ça est au cœur de l'économie brésilienne. Donc là, on se voit dans une contradiction, on va se retrouver dans une contradiction très difficile de s'en sortir, c'est-à-dire que pour réussir à progresser l'économie dans ce qu'elle est en train de pointer où elle augmente de plus, où elle tient une certaine augmentation, sont les mêmes responsables pour la destruction de cet actif, que si à la fin il va être détruit, va certainement causer l'autodestruction du pays, et même plus large. Donc il y a cette contradiction autodestructrice où nous nous sommes pris, et où on ne sait pas exactement comment Lula, ou s'il peut vraiment en sortir. À mon avis, il faut vraiment imaginer des sorties, mais imaginer des sorties, ça serait par exemple arrêter tout d'un coup, ou on ne sait pas comment, mais arrêter la production de soja. Faire une sorte de réforme agraire radicale, d'imposer une sorte de réforme agraire radicale contre d'exproprier tous ces gros propriétaires, de les emprisonner parce qu'ils sont tous des criminels, et essayer de distribuer et réinventer une sorte de paysannerie, par exemple. Est-ce que ça va être possible? Bon, ça n'a pas été fait au moment où Lula avait une approbation mondiale et locale de 80 pour la sortie de présidence avec plus de 80% d'approbation.
Voilà.
Donc,
bon.
Est-ce que ça va être fait? On ne sait pas.
On ne sait pas. De toute façon, il faut attendre que Lula puisse assumer le pouvoir. Bon, il faut attendre le mois de janvier. Fred Lear, merci. Je rappelle, vous êtes membre de l'association Haute Brésil. On va continuer à suivre ce qui se passe.
Juste une chose pour Lula. Parce que voilà, ce sont deux mois de transition, et je pense que la communauté internationale, donc les amis qui écoutent cette émission, etc., il faut continuer de suivre, parce que même les mouvementations bolsonaristes, elles sont toujours là actives. L'armée, elle est très ambiguë dans leur position, et l'armée est un acteur central. Par exemple, c'est l'armée qui gouverne, Bolsonaro a inventé une institution pour gouverner l'Amazonie, et elle est contrôlée par l'armée. Donc il y a plein de choses, et la communauté internationale, il faut aider que Lula puisse véritablement assumer et démarrer son gouvernement, et pas déjà commencer dans une sorte de crise, ou même au pire, qu'il a une crise générale et ne puisse même pas assumer. Donc les choses marchent dans un bon chemin pour l'instant, disons raisonnable,
mais il faut
assurer la chose.
Voilà, il faut être très attentif. Fred Lear, merci. Bien sûr, on reviendra bientôt pour parler de la situation au Brésil. Merci.
Ok, je vous remercie. Bon après-midi à vous.
Merci. E agora vamos deixar o Brasil, ainda que um se fala da Amazónia, diz respeito também a nós, porque é o pulmão do planeta, mas vamos até Portugal. José Sário, muito boa tarde e muito obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, Arthur.
Muito obrigado. Ora, antigo secretário de Estado das Comunidades, por diversas vezes eleito pelo Círculo Fora da Europa de Deputado e atual coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas. O PSD emitiu um comunicado, isto a propósito do Orçamento Geral do Estado para 2023, no capítulo da Política das Comunidades Portuguesas, um Orçamento Geral que, em princípio, deverá ser aprovado ainda até ao final deste mês, salvo erro, mas o Partido Social Democrata é bastante crítico relativamente a este orçamento e talvez vamos começar pelos consulados. Com efeito, no vosso comunicado, vocês afirmam que há uma redução de verba para o pessoal de serviços externos e a abertura de concursos. Esta é dessa, ainda continuamos à espera.
Meu caro Artur, antes de mais agradeço a oportunidade. Permita-me que lhe diga que nós não somos fortemente críticos, nós limitamos-nos a constatar coisas, factos e números e até declarações do próprio governo. E, de facto, esta questão relativamente aos consulados é muito evidente que há aqui qualquer coisa que não bate certo. Porque o governo continua a dizer que está a investir, que vai investir, que tem concursos abertos para pessoal. E nós olhamos para os números do orçamento, e é isso que nós temos no comunicado, e verificamos, por exemplo, que no domínio do pessoal de serviços externos não há aumento da verba, pelo contrário, até haverá uma ligeira redução para 2023. Por outro lado, vamos ver os avisos de concursos para pessoal técnico e administrativo, também para a área dos serviços externos, e verificamos que, neste momento, não se encontra aberto qualquer concurso. E durante o período de gestão do atual secretário de Estado, não foi determinada a abertura, portanto, durante estes 7 meses, não foi determinada a abertura de nenhum concurso para esta área. Estamos, assim, confrontados com uma contradição muito evidente. E é isso que nós constatamos, limitamos-nos a constatar no comunicado que divulgámos, naturalmente.
Mas, José Sário, agora volto precisamente a este orçamento e aquilo que tinha dito João Carvinho, ou seja, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, cito: onde terminaremos o ano 2023 com mais de 249 efetivos do que no final de 2022, sendo a grande maioria deste aumento, nomeadamente 222 efetivos, para os serviços periféricos externos, muito em particular para os consulados. Isto são afirmações de João Carvinho.
Eu ficarei muito satisfeito se assim for, mas os números que temos, com que estamos a trabalhar, os números que estão no texto do Orçamento de Estado, não são esses. E, portanto, o Sr. Ministro deveria ter dito onde é que vai buscar as verbas para fazer, para admitir esses funcionários, a não ser que esteja à espera que, para entrar 222, saiam 222. Não vai ser o caso, vão sair muitos, por razões de reforma, por vários motivos, mas não vai ser esse número. Portanto, há aqui uma contradição evidente entre aquilo que são os números e aquilo que é a realidade. E repito-lhe, neste momento e durante o ano, todo o ano 2021, não foi determinada a abertura de nenhum novo concurso para os serviços externos. Ora, contradição chama-se demagogia, é aquilo com que estamos confrontados neste momento.
Mas, José Sário, outra constatação, disse que eram críticas relativamente ao orçamento, mas o José Sário fala de constatação. Outra, atendimento e agendamento consular, a degradação continua.
Totalmente. Aquilo que nos vai chegando da parte dos utentes, sejam eles de Paris, de Londres, de Toronto, de São Paulo, de Joanesburgo, da generalidade dos grandes postos do mundo, é a quase total impossibilidade de ter acesso aos mecanismos de agendamento, às formas de agendar os atendimentos, e quando conseguem fazer agendamentos, são agendamentos a 5 meses, a 6 meses, a 9 meses, a 10 meses, etc. Portanto, há efetivamente uma situação que eu diria que já não se verificava há muitos, muitos anos, há mais de 25 anos, praticamente desde antes ainda do José Lelo ser secretário de Estado das comunidades portuguesas. E, portanto, esta situação é fortemente penalizadora para os portugueses e para os estrangeiros que querem visitar Portugal, que precisam de vistos. E, portanto, nós verificamos que o modo como a rede consular, os serviços consulares estão a ser organizados e estão a ser dirigidos, está em total contradição com aquilo que são as atuais necessidades do país. Porque o país precisa que as pessoas tenham os seus problemas resolvidos, seja os portugueses, seja os estrangeiros, repito. E, de facto, não é isso que acontece. Bem, pelo contrário, os serviços estão a funcionar cada vez pior.
Mas a Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, tinha anunciado, penso alguns meses atrás, que no 10 de junho de 2023 o consulado virtual será uma realidade. O consulado virtual pode resolver um certo número de problemas, pode melhorar os serviços?
Primeiro há que saber o que é que vai ser o consulado virtual. Temos colocado essa questão. Se o consulado virtual for aquilo que foi aquela experiência do consulado virtual do tempo do secretário de Estado António Braga, que implicou a aquisição de um conjunto de quiosques que foram espalhados por várias associações e que depois se concluiu que não serviam para nada, se for isso, bem, não serve para, não é nada. E ainda ficamos pior. Se forem, efetivamente, medidas que permitam simplificar administrativamente o tratamento dos atos, pois com certeza que daremos passo positivo. Repare que quando nós lançámos as novas permanências consulares com equipamentos móveis, em 2012, deram-se passos positivos no sentido de as pessoas serem atendidas mais facilmente. Houve muitos milhares de pessoas que não conseguiam ser atendidas, estavam longe dos consulados, passaram a sê-lo. Quando o SIRIC começou, o Sistema Informático de Registro e Identificação Civil, foram dados passos muito positivos permitiram acelerar o tratamento dos atos consulares. Agora, neste momento, nós só queremos saber o que é que vai ser feito. Porque o Sr. Primeiro-Ministro tem dito que quer o consulado no telemóvel. Sabemos que no Orçamento de Estado de 2022, ou seja, deste ano, havia 7 milhões de euros para gastar exatamente nessa área. 7 milhões de euros é muito dinheiro, para o ano ainda vai haver mais, é dinheiro proveniente do chamado PRR, Plano de Resiliência. Ora bem, então nós temos muitas expectativas, claro que temos, e esperemos que se tenha passo, mas o Governo não esclarece, repito, o Governo nem esclarece a nós, nem esclarece aqueles que estão nos postos, os chefes de posto, os funcionários em geral. Ninguém realmente sabe como é que se vão simplificar os atos administrativos, como é que se vão fazer essas mudanças. E a fazer fé naquilo que tem sido a prática destes últimos 7 anos, a verdade é que o que se tem passado não augura nada de bom. E, portanto, eu quero ser otimista, mas muito francamente, não temos razões para o ser.
Ora, há outro ponto, o Governo tinha falado de espaços de cidadão e, igualmente, bom, o novo centro de atendimento, bom, Albergaria da Fé. São pessoas que estão em Portugal que desconhecem a realidade da imigração. Cada país tem a sua especificidade. Um centro de atendimento em Portugal tem a sua razão de ser, porque que respostas pode dar para além certas respostas jurídicas que têm diretamente a ver com Portugal, mas nós sabemos que temos problemas que têm relação com o país onde estamos a viver.
Para nós é muito clara uma coisa. Os centros de atendimento só fazem sentido se servirem, além de dar informações, também para fazer o agendamento dos atos consulares. Se não servirem para isso, são inúteis. Que é a situação atual. As pessoas telefonam para lá, são atendidos alguns por um cidadão que está em Alfândega da Fé, perguntam como é que vão tratar as coisas, até podem ser esclarecidas, mas depois não há sequência. Ora, é isto que não pode acontecer. Nós assim estamos a dilapidar a desperdiçar recursos. Esses recursos podiam estar a ser utilizados de uma forma mais conveniente. Ora, aqui está uma forma, porventura, de corrigir um pouco daquilo que se tem passado. É bom dizer que nós já tivemos centros de atendimento. No meu tempo, como secretário de Estado, chegamos a ter 14 centros de atendimento em vários postos consulares.
Incluindo aqui em Paris, por exemplo, é um caso concreto.
Incluindo Paris, exatamente. E esses centros de atendimento colaboravam também no processo de agendamento e de atendimento. Ora, o governo, em 2000, quando este governo socialista tomou posse, em 2000, em finais de 2015, e iniciou funções, uma das primeiras coisas que fez foi acabar com esses centros de atendimento locais e substituí-los por este. Ora, este é completamente inútil e, portanto, se formos por aqui, evidentemente que estamos a trabalhar mal, tal como o Artur referiu e bem, o exemplo dos espaços de cidadão. Os espaços de cidadão foram anunciados como uma grande reforma da rede consular, ali a partir de 2016-17. Eu próprio estive com o Ministro dos Estrangeiros à data, o ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, na inauguração do de São Paulo. O de São Paulo não funciona. E o de Paris funciona de uma forma extraordinariamente limitada, porque praticamente a única coisa que as pessoas lá vão fazer é obter as certidões de registro criminal. Portanto, trata-se de um serviço que é virado para os residentes no território nacional, não é virado para os residentes fora de Portugal, para os portugueses que estão no estrangeiro, ou seja, é inútil. Aliás, deixe-me que lhe diga que esse serviço, os espaços de cidadão foram criados ainda no tempo em que nós estávamos em funções, estávamos no governo, foram criados no território nacional, para o território nacional. Eu fui desafiado para os levar para os consulados e, naturalmente, não o fizemos, porque concluímos que os serviços que eles prestavam não eram adaptados àquilo que é a realidade das pessoas que estão no estrangeiro.
Ora, a última constatação, José Sari, tem a ver com o ensino de português no estrangeiro, chamado EPE.
Permita-me que diga que ainda há uma outra, na área social.
Ah, sim, a história do que diz respeito ao apoio social e idosos carenciosos.
Exatamente.
Pois, mas tentaremos lá ir, talvez rapidamente, mas poderemos voltar ao assunto um dia destes. Mas relativamente ao ensino, a vossa constatação é que mais de 300 mil pessoas emigraram nos últimos 10 anos. As verbas para o EPE, o Ensino Português do Estrangeiro, foram reduzidas e o número de alunos diminuiu também. De maneira que mais imigrantes, menos alunos?
Pois é, infelizmente é aquilo que nós constatamos. Sabe que eu estava convencido que a realidade era o contrário. O governo não tem dado informações relativamente a estes números e agora apercebemos-nos nos últimos dias que o secretário de Estado tem deixado escapar, e o próprio gabinete, através de alguns órgãos da comunicação social com quem tem maior proximidade, tem deixado escapar vários números. E por aí concluí que efetivamente estávamos confrontados com um logro autêntico. Porque aparecem notícias em que se assume como uma grande conquista, como um facto extraordinário, termos 38 mil alunos na rede do chamado ensino português no estrangeiro. Ora, em 2014 havia 47 mil. Ora, perdemos só aqui se vê que perdemos 9 mil alunos. Se olharmos para as verbas provenientes das propinas, que relativamente à qual eu fui tão criticado por ter criado, não é? Mas que ainda continua em vigor.
Em certos países, unicamente.
Não, nos países, continua em vigor exatamente nos países onde existia...
A Suíça, por exemplo.
Exatamente. Ora bem, mas as verbas resultantes, a receita desta propina, em 2023 cairá 20%. Ora, se cai 20%, quer dizer que há menos alunos a pagar. Se há menos alunos a pagar é porque há menos alunos na rede, não é? E, portanto, ainda temos outro número. Foi também assumido em notícias divulgadas que na Suíça havia 75 horários, 75 professores. Ora, em 2014 também havia na Suíça 94. Portanto, por todos estes factos, nós constatamos uma coisa que é muito evidente. Neste momento a rede cobre muito menos alunos. E depois ouvimos os deputados socialistas satisfazerem-se, ficarem muito satisfeitos pelo facto de ir haver mais dinheiro para a chamada digitalização do ensino, ou seja, para o ensino à distância. Portanto, isto leva-nos a crer que há uma estratégia que estará a ser desenvolvida, que apontará para a substituição do ensino presencial pelo ensino à distância. E nós sabemos que isso pode ser uma solução em alguns casos. Eu sempre disse, eu próprio fui professor de ensino à distância, sei bem as suas potencialidades, mas é válido em alguns casos, não é válido na generalidade das situações.
Sim, é tanto mais que o português, bom, há uma luta também, porque ele possa integrar o currículo escolar dos países onde existem comunidades portuguesas. E agora, ainda a propósito da Suíça, precisamente os pais pagaram propinas, ainda hoje, meses e meses depois, ainda estão à espera de receber os livros. Agora, o chamado ASIC, Apoio Social a Idosos Carenciados, a vossa constatação é que foram atribuídos ou foram concedidos um quarto dos apoios. Isto, comparativamente, há 10 anos atrás, portanto, um recuo de 75%.
Exatamente. Havia, na altura, gastavam-se 2 milhões e 300 mil euros nesta rubrica. Neste momento gastam-se 600 mil euros. E estamos a falar de um governo socialista, um governo de esquerda, que deveria ter uma sensibilidade social apurada. É bom ter em consideração que, sobretudo nos últimos 3 anos, as questões sociais aumentaram de uma forma impressionante. Temos muito mais gente carenciada, gente em situações de pobreza extrema, sobretudo em países da América do Sul e da África. E também temos problemas complicados em alguns países da Europa, é bom não esquecer, já havia no passado, como contigo, continua a haver no presente. Ora, este número também é muito claro relativamente ao desinvestimento feito nas políticas para as comunidades portuguesas e, portanto, aquilo que nós fazemos neste comunicado é alertar as pessoas para aquilo que é um exercício de total demagogia, porque efetivamente temos um secretário de Estado das comunidades, que é um homem próximo das pessoas, é um homem, como se diz, bem falante, é um homem simpático, é um homem que tem um discurso engraçado, interessante, como já tiveram outros anteriormente, nomeadamente o Dr. José Luís Carneiro, mas depois somos confrontados na realidade com políticas que são completamente contraditórias com estes discursos, E, portanto, é bom que as pessoas percebam aquilo com que estão a lidar. De facto, isto é demagogia, é aquilo que se pode chamar, não mais do que isto.
Sim, senhor, teremos que esperar pela aprovação do Orçamento Geral de Estado para 2023, entre outras coisas, o capítulo de políticas para as comunidades portuguesas e ver se realmente as vossas constatações, vossas e de outros partidos, aliás, são tidas em conta pelo governo ou não. Uma última referência, eu sei, mas isso é um tema que iremos desenvolver mais tarde. Segunda, terça e quarta, é como que diz já, a partir de amanhã, o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas tem uma reunião em Lisboa, fala-se muito de próximas eleições para o CCP, a modificação da lei eleitoral e isso tudo, de maneira que vai ser um tema que podemos abordar uma vez que as coisas estejam mais definidas, de maneira que é algo que vocês estão a seguir de perto também, acho.
Muito de perto. Amanhã vamos reunir com o Conselho Permanente, o CCP, amanhã à tarde, em Lisboa. Eu próprio tenho desenvolvido, mantido contactos com vários conselheiros. O PSD está muito atento a esta situação. Efetivamente, as últimas eleições realizaram-se há 7 anos, o mandato é de 4, portanto já deveria ter havido eleições. Percebemos muito bem que houve a pandemia limitou as coisas, mas já foram 3 anos, portanto já é demais. E o Governo tem vindo a anunciar que o Governo e o Partido Socialista que deverá haver uma alteração da lei. A verdade é que nunca avançaram com essa proposta. Portanto, nós vamos amanhã ver se há alguma evolução e se não houver, nós vamos tomar uma iniciativa. Espero que o Governo venha na nossa pelgada.
Aliás, o deputado do PSP para o Círculo da Europa, Paulo Bispo, tinha mesmo anunciado que essa nova legislação apareceria no mês de setembro de 2022.
Bom, já, nem mais.
José Sário, muito obrigado. Ora, relembro.
Obrigado,
é o coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas. Voltaremos a todos estes assuntos e uma vez que o Orçamento Geral do Estado para 2023 tenha sido aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, eu. Muito obrigado.
Voltamos ao direto neste domingo, dia 13 de novembro, passagem nível com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E vamos falar de uma constante que é o Jantar de Gala Solidário, organizado pela Santa Casa da Misericórdia de Paris, desta feita, está logo no sábado, dia 19 de novembro, e o que já é hábito também, igualmente, na Sala Vasco de Gama das Instalações da Rádio Alfa, em Valentim. Mandão Alantunes, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Obrigado por estar em direto connosco, faz parte da Santa Casa de Misericórdia de Paris. Comecemos por este jantar, porque depois vão haver também umas jornadas, que eu chamo jornadas de estudo, já lá iremos, jornadas de trabalho, de maneira que é bastante importante a participação neste jantar, porque, as fontes da Santa Casa da Misericórdia são benévolas, é com essa ajuda que a Santa Casa pode ajudar os portugueses carenciados aqui em França, não é?
Sim, com certeza. Aliás, e nos últimos anos e nos últimos meses, de maneira particular, as condições económicas de um certo número de famílias pioraram bastante, de muitas famílias, todas, mas de algumas que estavam, digamos assim, no limiar da pobreza, e de facto temos que ajudar cada vez mais pessoas, e portanto é mesmo muito importante que quem puder participar, ainda há alguns lugares neste jantar, e há várias formas de se inscrever ainda durante o início da semana. Portanto, é uma forma da comunidade portuguesa, digamos assim, juntar-se. Há outras associações que também o fazem de outra forma, e muito bem, e a Misericórdia é uma delas, e portanto apelamos de facto a essa participação de quem puder estar no próximo sábado na Sala Vasco da Gama, na Rádio Alfa.
Com efeito, bom, eu o número de telefone, mas vão através das redes sociais, têm o número de telefone direto, bom, é o 01-79-35-11-03, é ali que fica pelo sim, pelo não, mas relativamente a este jantar de gala, à Cafrica, mais uma vez, os artistas vêm graciosamente. Isto é bastante importante. Todos aqueles que têm participado nos jantares de gala vêm graciosamente. Trata-se este ano de Ninger, Vanessa Martins, e ainda do DJ António José Peixoto, sem esquecer igualmente que há sempre uma espécie de sorteio de tómbola, e desta feita vai ser uma pintura de Nathalie Afonso. É bastante importante isto, porque entretanto nos dias 18, 19 e 20 aí vai ser outra coisa, três jornadas de reflexão. Vale a pena falar sobre isso, porque finalmente é fazer um pouco o balanço do trabalho realizado, das dificuldades, e preparar um plano para o futuro.
Sim, relativamente ao jantar, se me permitir, relativamente à artista Nathalie Afonso, para além de uma escultura, também haverá um quadro, que já está também presente nas redes sociais, para quem quiser ver, que será sorteado. Relativamente, sim, de facto, temos duas vertentes, digamos assim, deste fim de semana, um vertente para o público, digamos assim, em geral, que é este jantar, e uma vertente, digamos assim, para juntar especialistas na área da solidariedade social. E de facto teremos na sexta-feira no Consulado-Geral uma mesa redonda das 15 às 17h30, onde haverá cerca de uma dezena de convidados portugueses e franceses. De Portugal temos duas pessoas da segurança, do Consulado, alguém que vem de Portugal da Segurança Social, Catarina Marcelino, um representante da União das Misericórdias Portuguesas, em princípio o seu presidente Manuel de Lemos, um representante da Câmara da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e de França temos representantes da CNAS, da Croix-Rouge Française, do Secours Populaire, da Union Départementale des Associations Familiales de Paris e de l'Association de Protection Juridique et pour l'Autonomie também de Paris. Portanto, para, de facto, a Santa Casa de Misericórdia, digamos assim, colabora com entidades francesas e portuguesas, devido ao público muito específico com o qual trabalhamos, com pessoas de origem portuguesa e lusófona também, não apenas só portuguesa, nós ajudamos apenas também de origem portuguesa, mas também lusófona, e de facto é importante juntar estas pessoas que trabalham nessa questão da solidariedade dos dois lados para tentar melhorar o nosso serviço, aqueles que mais necessitam, e também chamar a atenção, quer das autoridades portuguesas, quer das autoridades francesas. Elas já o sabem, com certeza, mas chamar mais uma vez a atenção para este público específico que às vezes pode estar um bocadinho mais esquecido.
Ora, Manuel Nunes, não é por acaso que o intitulado dessa conferência, Em Conjunto Repensar o Futuro, com efeito, quando vemos a lista dos participantes de Portugal aqui, bom, o Secours Populaire, como disse antes, a Croix-Rouge, significa pura e simplesmente, bom, talvez seja um pouco redutor, é que o trabalho aqui da Santa Casa da Misericórdia em Paris não se limita, se não é feito entre portugueses, não é feito entre a Santa Casa e o Consulado, ou não sei mais quê, mas há uma abertura, finalmente, os problemas existem na sociedade e a Santa Casa leva, ou aporta, como dizem os franceses, a sua especificidade, é isso?
Com certeza, nós não queremos, nem temos a possibilidade de nos substituirmos ao que existe muito bem, por exemplo, em França. De facto, nós não vamos substituir nem ao Secours Populaire, nem, digamos, em outras associações. Muitas vezes nós reencaminhamos para esses serviços, estamos em contacto com eles, e outras vezes nós temos essa especificidade, porque, de facto, há pessoas que, nem sempre, mas às vezes mesmo pessoas que emigraram recentemente, às vezes, e que se encontram rapidamente numa situação de precariedade, também não dominam a língua francesa, por exemplo, e outras questões dessa índole. Nós temos um grupo de psicólogos que trabalha, que acompanha e que também reencaminha para o serviço francês. Então, fazemos esse ao mesmo tempo acompanhamento e ao mesmo tempo reencaminhamos quando vemos que existem já serviços que respondem muito bem. Portanto, nós não nos queremos substituir a nenhuma entidade, mas, digamos assim, articular entre as entidades e ajudar um bocadinho as pessoas que estão um bocadinho perdidas às vezes.
Sim, e há associações, por exemplo, a Emmaüs ou mesmo a Fundação Abbé Pierre já ligou para a Santa Casa a precisar também da ajuda da Santa Casa. Ora, essa reunião é na sexta-feira, dia 18, a partir das 15 horas, no Conselho-Geral de Portugal em Paris, e no sábado, dia 19, é uma reunião bastante importante, porque é com as chamadas redes de solidariedade e, com efeito, todas as campanhas lançadas pela Santa Casa de Misericórdia de Paris têm, felizmente, e o apoio ainda não é suficiente, de um certo número de associações e não só.
Sim, com certeza. Eu agora não me recordo todas
Eu podia fazer isto todos juntos, sim. Fundação Nova Era, Academia de Bacalhau de Paris, Associação Hirondelle, a APCS de Ponto Combo, a AFP de Puteau, CCPF, Les Amis du Plateau, Associação Gaivote, Associação Minhotes de Clichy, Associação Portuguesa de Bienfaisance. Vou pedir continuar assim.
Sim, com certeza. E são associações que, de facto, que estão mais próximas localmente, digamos assim, e muitas delas, portanto, quer no apoio alimentar, quer no tipo de apoio, ou nos reencaminham, ou, de facto, são pessoas dessas associações que estão em contacto com as populações mais locais e que têm algum grau de dificuldade e que mais facilmente contacto com elas. E, portanto, elas fazem parte dessa rede de apoio. É evidente que a Santa Casa da Misericórdia é um conjunto de pessoas que trabalham de forma benévola. E precisamos e é uma das grandes dificuldades...
Mais forças, mais pessoas.
É isso, mais forças, porque há muitas das pessoas que trabalham, por exemplo, na Misericórdia desde a sua criação, no final dos anos 90, e que já estão na reforma e que dão do seu tempo, mas já precisamos também de um bocadinho de sangue novo também na Misericórdia, e de facto isso é uma das grandes dificuldades que nós temos. Ainda bem que temos essas associações que dão uma ajuda essencial, digamos assim, a nível mais local para chegar às populações e para ajudá-las.
Santo Mais, que bom, eu já estou a pensar na campanha de Natal. De maneira que nós sabemos que o papel das associações, e não só, dos empresários, dos estabelecimentos comerciais portugueses, isso tudo é bastante importante, porque vocês, durante esta campanha, conseguem ter um certo número de géneros alimentícios, mas não só, é que permitem depois ajudar aqueles que vos batem à porta.
Sim. Aliás, no dia seguinte, praticamente aqui um ou dois dias depois de acabar esta iniciativa do domingo 20, no dia 21 ou 22, vamos começar já com a comunicação da campanha de Natal, que está aí à porta e que, graças às comunidades católicas, graças aos empresários, graças às associações e, sobretudo, também graças aos dons que são feitos pelas famílias, conseguimos cada vez mais angariar mais anos alimentícios e não só. Mas, de facto, é verdade que os do ano passado esgotaram durante o ano mais rapidamente do que era costume, porque a situação social e económica de muitas famílias que estão no limiar da pobreza é cada vez mais complicada.
Mas ontem-nos mais do que nunca, com lembrar que a Santa Casa Misericórdia de Paris não tem quaisquer subsídios, de maneira que tudo vem precisamente dos donativos e do apoio dos portugueses.
Se me permitir, sim, de facto, a grande maioria, de facto temos alguma ajuda e de facto algum apoio da DGACCP, que nós concorremos durante todos os anos, como qualquer associação pode concorrer a algum tipo de apoio, temos algum apoio, mas que é claramente insuficiente, mas que já é um apoio, e temos apoio depois, outros tipos de apoios, como as associações em termos humanos, da Rádio Alfa, por exemplo, para este, e não só para a divulgação do evento, mas nessa sala e muitos outros apoios, ou de outros órgãos de comunicação social, mas de facto, em termos económicos, é complicado. Nós temos uma sede que é preciso pagar a renda e, portanto, temos um conjunto de outros apoios que é preciso dar, porque nós não ajudamos apenas em termos de géneros alimentícios, às vezes pontualmente, alojar algumas pessoas, etc, etc, e outro tipo de apoio, e, portanto, para isso, de facto, precisamos desses. Desses apoios económicos são muito importantes para a ajuda das pessoas em dificuldade.
Sem esquecer o apoio, normalmente, que era feito também aos presos portugueses. Bom, mas teremos a ocasião de falar de todos os
acessos. Que fazemos ainda todos os anos.
Sim. Todos os anos, com efeito. Que é bastante importante, porque uma pessoa, talvez, felizmente, temos sorte, hoje juízo, não sei como é que é dizer isso, de estarmos livres, mas mesmo uma pasta dentífrica, seja quem for, tem que ser pago.
Com certeza.
E há que ter meios para isto. Manuel Antunes, muito obrigado, e relembro para já, e em alguns lugares, para o jantar de gala, precisamente, que terá lugar no dia...
Se me permitir, dois segundos, em misericordiadeparis.org, é o site, podem fazê-lo diretamente através do site. O número de telefone que o Arthur já divulgou há pouco, 01-7935-1103, e através do Facebook tem lá diretamente o link para fazê-lo também. Portanto, através do número de telefone, se não quiserem fazer por internet, ou se não quiserem pagar em linha, através do número de telefone resolvem a situação, e estamos muito gratos à vossa participação.
E, de qualquer maneira, para amanhã, a partir das 9 horas, podem ligar para a Rádio Alfa e que vamos facultar para mim todos esses números. Manuel Antunes, muito obrigado. Bem-haja, e agora era preciso ser muito, muito, muito mais benévolos que trabalhem com vocês.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau, ce dimanche 13 novembre, émission qui est rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Et pour la troisième fois, on part à Cognac, ni plus ni moins, ça au sujet de la 35e édition du Festival de littérature européenne de Cognac. Madame Lydia Dussose, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la présidente du festival. Alors, 35 ans, oula.
Oui, oula, hein. Oui, c'est un festival effectivement qui a une belle longévité et puis qui, depuis quelques années, fait une part belle à un pays européen. Et puis cette année, effectivement, c'est le Portugal.
Tout à fait. Alors cette opération du Portugal, bon, il faut dire que ça avait déjà démarré au mois de mai, justement.
Absolument.
Joli mois d'Europe.
Mm-hmm. D'Europe. Voilà, on a eu le plaisir effectivement de commencer sur une rencontre autour de l'exil, avec un témoignage fort intéressant et très émouvant, et puis un historien qui a effectivement une vision après un peu plus large de l'exil des Portugais dans notre région.
Oui, tout à fait. Voilà, il s'agit de Victor Pereira, qui est maître de conférence à l'Université de Pau et du Pays de la Doure. Mm-hmm. Et l'invité, c'était justement un réfugié politique, Vasco Martins, pour ne pas le nommer. Justement, alors, cette 35e édition, le thème, c'est le Portugal. Donc, c'est finalement c'est la littérature contemporaine portugaise, mais pas seulement, parce qu'on a du cinéma, on a aussi mis de la gastronomie. Donc, bon, c'est vrai que la culture, la littérature, ça fait partie de notre nourriture aussi.
C'est ça. Oui, absolument. On a un festival qui est extrêmement diversifié. On part du pays et puis autour de, évidemment, de la littérature au sens strict. Gravite, effectivement, une illustratrice, on a trois expos, on a trois films portugais, on a le livre dont vous parliez, c'est celui de Sylvie da Silva, qui est vraiment un livre pour se régaler, qui parle des coutumes du Portugal, de ses régions, de sa cuisine. Et elle aura deux rencontres pendant le festival, le Sylvie da Silva, avec une personne qui l'interview, qui a l'habitude de faire des émissions culinaires à la télévision régionale. Donc vraiment, ça va être deux bons moments.
Tout à fait. Alors, une dizaine d'écrivains. Et une partie des écrivains, d'ailleurs, dans les deux semaines précédentes, on avait diffusé des interviews. Dulce Maria Cardoso, Isabelle Figueiredo, Miguel Sismanski, etc., etc. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas que la littérature portugaise, parce qu'il y a également une scène littéraire française. Donc, il y a ce va-et-vient, cette confrontation, entre guillemets.
Absolument. Et par exemple, il y a des tables rondes, notamment avec Isabella Figueiredo, qui va être en table ronde avec deux jeunes auteurs français, de façon à traiter justement, aborder le problème du colonialisme. Puisque elle, son roman se passe au Mozambique, lorsqu'elle était enfant. Et puis, ces deux jeunes auteurs qui sont Monsieur Leclerc, et puis, attendez, j'ai oublié son nom. Et ils sont trois autour de cette table ronde et pour aborder notamment Xavier Leclerc, et Abdella Taïa, donc qui vont être en table ronde avec Isabella Figueiredo. Et l'un est d'origine algérienne, l'autre d'origine marocaine. Et avec Isabella, ça va être une réflexion justement autour de l'empreinte du colonialisme.
Et d'ailleurs, il y a cet nombre d'écrivains. Voilà, je pense plus concrètement à Pedro Garcia Rosado, mais également à Miguel Sismanski. C'est des thèmes d'actualité. Bon, ce sont deux polars. Comme par hasard, deux polars qui traitent de l'actualité. Et on a parlé de cinéma. Il y a un historien qui va être parmi vous, Yves Léonard. Il a écrit dernièrement chez Tandier La Nation portugaise. Et justement, donc, cinéma, histoire, actualité, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'après la projection du film, il y a un débat avec les spectateurs.
Absolument, absolument. Chaque film présenté est toujours, alors d'abord est présenté par quelqu'un qui connaît le cinéma ou le thème qui va être inscrit dans le film. Et puis, les spectateurs sont invités effectivement à discuter à la fois du film et avec l'interlocuteur de façon effectivement à enrichir complètement le débat.
Alors, quand on parle débat, il faut dire que le festival, il est décentralisé. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans des endroits complètement différents.
Absolument. Et notamment, c'est notre prix des lecteurs. Alors, le prix des lecteurs, si vous voulez, c'est vraiment un focus sur la littérature portugaise. Et c'est un prix qui est diffusé à grande échelle, puisqu'on est sur quatre départements, les anciens départements Poitou-Charentes, c'est-à-dire la Charente-Maritime, la Vienne, les Deux-Sèvres. Et c'est plus de 1500 lecteurs, 137 bibliothèques, et dès le mois de mai, les bibliothèques ont les romans, et les lecteurs commencent à lire. Et juste dès mardi, là, les quatre auteurs en lice vont sillonner tous ces quatre départements et vont faire des rencontres le soir dans les bibliothèques.
Alors, j'ai entendu dire qu'Isabelle Figueiredo fait partie de ces quatre.
Oui. Alors, il y a Alfonso Cruz, Isabella Figueiredo, David Machado et Miguel Sipanski.
Tout à fait.
Voilà, ce sont les quatre romanciers, si vous voulez, qui sont en liste aussi pour ce prix, parce que les 1500 lecteurs, ce sont eux qui élisent le lauréat. Et le nom du lauréat n'est dévoilé que le jour du festival, le samedi matin du festival. Et il est doté, alors c'est un prix qui est doté de 1 500 €, il y a une bourse de 2 000 € et d'un mois de résidence à la Villa Marguerite Yourcenar dans le nord de la France. Donc c'est intéressant pour aussi pour l'auteur, mais c'est surtout intéressant parce que vraiment c'est la voix des lecteurs.
Alors, à propos de résidence, vous avez quelqu'un qui est en résidence chez vous, il s'agit de l'écrivain Nuno Gomes Garcia.
Absolument, et vraiment, il est parmi nous depuis depuis bientôt
trois semaines.
C'est oui, ça. Je crois. Et bien, écoutez, c'est en plus d'avoir des romans qui nous a intéressés, un parcours qui nous avait intéressé puisqu'on l'avait sélectionné, c'est quelqu'un de tout à fait charmant et que nos bénévoles et ses rencontres dans les classes se passent extrêmement bien. C'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié.
Oui, parce qu'effectivement, il passe dans les écoles, c'est ça, par les...
Absolument, des lycées. Oui, oui. Bah, il a fait déjà des rencontres dans deux ou trois lycées. Et effectivement, l'accueil est tout à fait intéressant et on pose beaucoup, beaucoup de questions, notamment sur son roman La Domestication qui interpelle.
Oui, tout à fait. Ça soulève plein de problèmes. Parce qu'on dirait que c'est le monde à l'envers, à savoir c'est une société dominée par les femmes, mais finalement, j'ai l'impression qu'elle tombe aussi dans le même travers que les hommes.
Absolument. On est proche du totalitarisme, d'ailleurs, je dirais.
Alors, justement, quelque chose de très important, c'est les jeunes, parce que vous avez toute une programmation pour la jeunesse.
Oui, effectivement, on a des, c'est-à-dire, on a en gros une cinquantaine de classes qui participent, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, on a énormément de. Alors, au niveau des jeunes, on veille notamment donc, pour les collégiens et pour les lycéens à mettre. Alors, quand ça n'est pas un auteur portugais comme cette année, mais au moins une thématique, et par exemple pour le prix des collégiens, on a une autrice française, Charlotte Bouquet, qui a écrit un roman qui s'appelle Les œillets pour Antigone et qui traite de la période difficile où Salazar était au pouvoir et à travers les yeux d'adolescents, la façon dont ils l'ont vécu et les périodes difficiles, quoi.
Oui, tout à fait, pendant la dictature fasciste de Salazar, voilà. Et de 25 avril 1974, avec tout ce qui s'est passé. Alors, une petite question. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses, il se passe dans des bibliothèques, ici, là, etc. Mais ça se passe aussi dans les caves de cognac?
Il y a des petites, choses dans les caves de cognac. On nous ouvre aussi, alors peut-être pas les caves, mais on nous ouvre quand même. Les grandes maisons de cognac sont proches pour offrir déjà une bouteille de cognac à chacun de nos invités. Ce qui
à consommer avec modération, bien que je l'adore.
Toujours. Et puis, on a une expo, par exemple, sur le Portugal, dans une grande maison de cognac, la maison Mokoff, si on peut citer des noms. Et puis, bien sûr, la filière cognac est bien sûr derrière nous. C'est un festival qui a besoin d'avoir ses aides. Alors, on a tous les institutionnels, bien sûr, le Centre National du Livre hein, nous soutient énormément. Et puis, les maisons de cognac, bien sûr.
Sans oublier, la ville de cognac.
Ah, bien sûr. Alors, mais toutes les instances, si vous voulez, institutionnelles, nous sommes bien soutenus. Hein, la région, le département, la ville de cognac, l'agglo, enfin, voilà. C'est indispensable pour faire un festival tel que celui-là, parce que le fait d'inviter beaucoup d'auteurs... portugais cette année, mais aussi européen, bien sûr, c'est un coût, mais c'est aussi une très belle vitrine pour l'Europe.
Alors justement, le Portugal, on a eu la saison croisée France-Portugal. Officiellement, ça s'est terminé le 31 octobre. Mais vous faites vous continuez cette opération en quelque sorte, parce que quand on voit le nombre d'écrivains présents, en quelque sorte, c'est vous qui faites la clôture de cette saison croisée.
Et absolument, et malheureusement, nous sommes hors délai pour ce festival, mais effectivement, nous avons effectivement beaucoup œuvré sur l'année pour cette saison culturelle, et notre festival se trouve un peu hors délai. Bon, mais ça n'a pas d'importance, nous sommes ravis de mettre le Portugal à l'honneur, ça n'avait pas été fait, nous, de façon aussi intense. J'ai regardé un petit peu dans nos archives depuis 2005, où Lydia Georges avait eu le prix Jean Monnet, qui est notre prix, si vous voulez, le plus important, dans la mesure où c'est un hommage aussi à Jean Monnet, père de l'Europe, qui est né à Cognac.
Et à propos, cette écrivaine-là, elle a un rapport aussi avec l'Afrique, avec le Mozambique.
Absolument. Pardon.
Non, je disais qu'on, en quelque sorte, on revient au début, notre conversation, je crois.
C'est ça. Et savoir que Lydia Georges, nous l'avions invitée cette année, elle devait être notre autrice à l'honneur, et puis son mari a eu des gros problèmes de santé, donc finalement,
elle n'a pas pu venir,
mais nous aurions été absolument ravis de la retrouver.
Alors, c'est quelqu'un qu'on va retrouver maintenant, c'est Catherine Sobral, c'est elle qui va présenter l'exposition. 4 bicyclettes et un pot de crayon. Alors, va falloir qu'on regarde. L'une parle en portugais, l'autre parle en français. On va faire comme ça le relais avec le Portugal. Madame Lydia Dussauze, merci. Je rappelle, vous êtes la présidente du Festival Littérature Européenne de Cognac. Ça sera du 17 au 20 novembre. Merci, merci bien.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
E boas-vindas, Catarina Sobral, muito boa tarde. Obrigado por estar em direto connosco. Peço desculpa, Catarina.
Obrigada pelo convite também para participar.
Obrigado. Ora, Catarina Sobral, precisamente, vai estar presente aqui, é convidada, eu posso dizer que de uma certa forma é convidada de honra, porque finalmente o cartaz do festival é seu.
É verdade, sim. Sim, eu fiz uma proposta... Aliás, fiz algumas propostas à Cognac, ao Festival de Literatura de Cognac, e depois acabamos por escolher este cartaz que representa um bocadinho Portugal, Lisboa, em particular, com o elétrico e o jacarandás sem flores.
Sem esquecer a guitarra portuguesa. Ora, a sua exposição vai estar patente a partir da inauguração, será no dia 18, de 4 bicicletas e um pouco de crayon. Ora, a minha pergunta é um bocado complicada, porque eu já tinha feito uma exposição em 2017 que era 3 foguetões e uma caixa de lápis. Qual é a relação entre uma e a outra?
São ambas coletâneas, no fundo, de ilustrações de vários livros diferentes. Esta ainda tem de alguns outros trabalhos que não são livros ilustrados, o chamado álbum Lustré, só que tem mais livros, e é menos focado na altura o Três Foguetões era mais focado no último livro, que era o Tão Tão Grande, que por acaso não está traduzido em francês, e agora tenho mais livros desde então, e por isso decidi mudar. Mas pronto, os lápis é um material comum a todos os livros.
Ora, a referir que estudou design gráfico, depois teve uma licenciatura de ilustração e começou a publicar livros ilustrados e a trabalhar como ilustrador freelance, como se diz, não é? Ora, 13 livros ilustrados e escreveu 10 deles, e alguns tem tradução francesa. Eu estive a ver na edição Notary, Helium, La Joie de Lire, Les Quatre Sans Coups, por exemplo.
Sim, sim. Essa é canadiana, não é? A Quatre Sans Coups. Depois, a Helium traduziu 3, suponho. cher grand-père, ou assim, Malumbo Mistério e o Impossível, que também, também foi o que Carlos Franco traduziu em francês, no território canadiano. E depois, a Notari, tem um livro original com a Notari, que se chama Comment elle a renoncé, e a Joana Lee traduziu alguns dos livros que eu tenho com outros autores, em parceria com outros autores, e a Sereia Gigante, que se chama La Sirene et le Dogel.
Ora, isso é, trata-se de literatura infantil, é uma coisa extraordinária, é que muita gente ouve a literatura infantil, mas nós sabemos a importância da cultura, a importância da literatura para as crianças, porque é base, e posso dizer que finalmente é mais fácil escrever um romance policial do que um livro para as crianças, não? Não é necessário mais difícil?
Pois, eu tenho... não é bem a teoria, é mais a convicção, era essa a palavra, a convicção de que os livros ditos para crianças são também para crianças, ou seja, são livros para todo o público, porque nós não queremos infantilizar as crianças, queremos que seja um livro interessante. Aliás, se é um livro que é demasiado estereotipado ou prescritivo do ponto de vista de um adulto, eu acho que não o queremos oferecer a uma criança, não é? Nós queremos livros que sejam desafiantes e que sejam interessantes e que lhes mostrem mais mundo. E por isso é que eu acho que é um livro que é para todos, só que tem que ter uma linguagem adaptada também às crianças, para os incluir também. Mas depois, são livros que acabam por ser interessantes. Eu, pelo menos, tenho a recepção de muitos adultos, designers, ilustradores, pessoas que simplesmente gostam do objeto do livro ilustrado, que é um objeto artístico, não é? E que compram muito mesmo, sem ter filhos.
Aliás, aqui em França há um salão anual do livro para a juventude e diversas vezes já me encontrei precisamente com escritores portugueses, a literatura para criança. Há outro aspecto também no seu trabalho, mas vamos ouvir um pequenino extrato e a Catarina vai nos dizer de que é que se trata.
Ok.
A grande diferença entre o senhor cheio e o senhor vazio não é o espaço que ocupam, mas o volume que os seus conteúdos preenchem. Medida com o rigor do princípio do Sr. Arquimedes, a razão entre o volume do conteúdo do Sr. Cheio e o volume do conteúdo do Sr. Vazio é imensa.
A razão entre dois volumes, Catarina, uma explicação?
É o meu primeiro filme de animação, que saiu em 2018, e é baseado numa personagem de um livro que também pronto, está publicado em algumas línguas, em português, que se chama Vazio, e este é uma extensão desse livro porque tem outra personagem, não tem só o Vazio, o Senhor Vazio, tem também o Senhor Cheio, que é o oposto dele, e pronto, e depois o título é uma brincadeira com a questão matemática
uma forma lúdica de falar de matemática. Bom, tem todo esse trabalho precisamente de cinema de animação, mas mais do que isso, fez também uma peça de teatro, e mais uma vez a peça dirigida para crianças a partir de 3 anos, peça essa que já foi encenada. Está a produzir um programa da rádio para crianças, isso aí interessa-nos a nós, a Rádio Alfa. Mas, entre outras colaborações, também trabalha com alguém que nós conhecemos bem aqui em casa, na nossa casa, que é o Tiago Pereira, a música portuguesa a gostar dela própria. Com as suas ilustrações, precisamente, que colabora.
Eu fiz uma colaboração com a música portuguesa a gostar dela própria, tinha um cartaz, penso que foi o único, agora se a memória não me falha, foi só um cartaz. E o espetáculo, na verdade, foi depois que deu origem a um livro Impossível, ou Impossível, que está, ainda vamos circulando com ele, a ser apresentado em algumas cidades, aqui em Portugal, por acaso até poderíamos levar a França um dia.
Foi imenso prazer.
Era interessante. Que é um espetáculo muito analógico, muito simples. Eu estou numa mesa de projeção a manipular algumas ilustrações e depois temos dois performers em palco, uma atriz e um músico que está a também fazer música e sonoplastia com objetos do cotidiano. E pronto, e é também como um livro, é para contar a história do universo aos mais pequenos. O programa de rádio já deixou de ir para o ar, porque pronto, tinha uma duração fixa de um ano, mas foi um projeto muito interessante, porque colaborei com vários autores de, pronto, lá está, também de texto para crianças portugueses, como a Isabel Minhas Martins, ou a Patrícia Portela, a Ana Pessoa, a Joana Estrela, etc. E o David Machado, que vai, por exemplo, também ao festival. E depois viram um espetáculo de teatro também, viram um objeto livro, uma espécie de um diário. E foi interessante, foi para a Antena 2 durante um ano, era uma vez por semana, era uma rubrica assim muito curtinha, mas foi muito giro fazer.
Vamos tentar, como temos o protocolo de acordo com a ATP, talvez conseguimos ter isso, porque seria interessante para os nossos ouvintes. Mas há um projeto também que arrancou recentemente em França, precisamente ligar a literatura e a juventude. Catarina Sobral, muito obrigado. Bom, preciso ir ao seu site diretamente, porque quando se fala de ilustrações, nada melhor do que ver concretamente. Mas para já os nossos ouvintes já conhecem o cartaz do festival, precisamente de Literatura Européenne de Cognac, onde a Catarina Sobral vai estar presente. Obrigadíssimo, e vamos guardar esse contacto, porque a ideia da peça de teatro aqui em França, acho que vamos ter que explorar isso um bocadinho melhor.
Ai, que bom, que bom. Fico contente. Obrigada, Arthur, também.
Obrigado, Catarina Sobral, e até muito, muito breve, então.
Até breve. Obrigado.
E vamos falar agora com alguém que não vai estar lá, mas enfim, é o filme dela. Quero ver a Cristel Alves Meira, a propósito do filme Alma Viva, que é candidato de Portugal a melhor filme internacional nos Oscars, é como quem diz, dos Estados Unidos, para 2023, e que vai estar também aqui em Paris. O filme vai ser apresentado em Paris, mas para já, força!
Ça y est, Alma Viva, ça tourne, c'est le cas de le dire, ça concerne Paris, il faut attendre le mois de mars. Christelle Alvesmeyer, avant tout, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Alma Viva. Et commençons par une nouvelle extraordinaire, c'est que les membres de l'Académie du cinéma portugais ont choisi Alma Viva pour représenter le Portugal aux Oscars aux États-Unis.
Oui, c'était vraiment une très très bonne nouvelle. Je vous confesse que je m'y attendais pas du tout. Il y avait quand même d'autres films portugais assez forts à mes côtés et je ne pensais pas qu'ils allaient choisir un film d'une franco-portugaise. Et du coup, je suis très très fière de cette nomination, de pouvoir représenter le Portugal. C'est une symbolique très forte pour moi. C'est aussi une façon de saluer, de reconnaître aussi l'histoire de mes parents. L'histoire de mes parents, c'est ceux de nombreux Portugais qui ont immigré en France dans les années 70 et qui du coup ont un rapport avec le Portugal un peu décousu. Ils y retournent quelques fois par an. Mais voilà, donc cette reconnaissance de faire de moi aussi une réalisatrice portugaise qui peut représenter le pays, c'est une façon de se rappeler qu'il y a aussi cette histoire d'immigration dans l'histoire portugaise. Et voilà, j'étais très très fière. Et maintenant, on est en campagne, on croise les doigts pour voir si on remonte jusqu'à Hollywood. Voilà, en tout cas, on est dans la liste des 85 films choisis à travers le monde. Et voilà, on verra. On s'en en saura plus en janvier.
D'accord, on va peut-être revenir au début, parce que, bon, alors, à propos du film, je lis, hein, comme chaque été, Salomé retrouve le village familial dans les montagnes portugaises, mais sa grand-mère meurt subitement. Alors que les adultes se déchirent, Salomé est hantée par l'esprit de celle qu'elle voyait comme une sorcière, ni plus ni moins. Mais enfin, bon, ça c'est un résumé, mais c'est étonnant parce que dans le film, on a la vie, évidemment la vie dans un village, et ça se passe au moment où il y a les immigrés. Mais là, on a tous les ingrédients, finalement, de ce qui est la société portugaise rurale, non?
Oui, en fait, j'ai la chance de faire pas mal de dates avec le film et de rencontrer le public un peu partout. Le film est sorti au Portugal la semaine dernière, donc j'ai rencontré aussi le public portugais, et en France, il fait le tour de pas mal de festivals. Et ce que je ressens, ce que je reçois du public, c'est que le film, c'est avant tout un film de famille qui raconte justement ces familles qui reviennent l'été au Portugal. Et donc, dans le cas de l'histoire, là, il y a la grand-mère qui meurt. Donc, on connaît tous hein, ce que ça crée, le moment de d'espertilles, je pourrais dire en portugais, le moment où, justement, les familles doivent décider de ce qui reste, de ce qu'on se partage. Et donc, on a des rancœurs qui remontent, on a des manques d'amour, des peines. Et donc, le film est très, comment dire, très sincère et très, très frontal aussi dans sa façon de raconter cette famille. C'est aussi une comédie, il faut le dire, c'est assez drôle, parce que souvent, dans les moments de deuil, nos sentiments sont tellement animés qu'on peut se mettre à rire puis à pleurer. Et le film, qu'est-ce qu'il a cherché à faire, le spectateur, il est vraiment comme ça amené à rire et soudainement à pleurer. Et il est aussi question de mystique dans le film, d'ésotérisme, parce que cette grand-mère, elle a un don particulier. Et du coup, ce don fait qu'on l'accuse dans le village d'être la sorcière, parce qu'aussi, elle a une ouverture, en tout cas, elle a une aventure illégitime avec le voisin. Et voilà, une femme qui s'aventure dans des relations légitimes, ça fait d'elle, du coup, une sorcière. Et donc, c'est cette petite fille qui va essayer de, au moment de la mort de sa grand-mère, de traverser toutes ses croyances et qui va être elle-même accusée aussi par le village, mais elle va se libérer. C'est un film qui est plein d'espoir, plein d'amour et qui nous ouvre aussi vers le merveilleux, parce que c'est un conte, c'est presque un western, c'est un film d'aventure. Enfin, en tout cas, ce que je ressens, c'est que les gens sont très heureux en sortant de la salle et ils sont contents aussi qu'on ait pu parler de leur histoire, parce que tout le monde se reconnaît dans cette histoire d'une grand-mère avec sa petite-fille, de famille, de deuil. Voilà, donc j'ai vraiment hâte que le film sorte en France. Alors, ça va arriver bientôt, c'est en mars.
C'est le 15 mars, exactement.
En mars et j'espère que je reviendrai en parler à l'antenne. Mais là, déjà, pour ceux qui m'entendent, mercredi, donc 15 novembre, le film sera en avant-première à Châtelet-Léal.
Pardon, Christa, c'est le mardi 15. Oui.
Ah oh pardon, mardi, excusez-moi. Mardi 15 ouais. Novembre. Donc le film passe à 18h en avant-première au Forum des Images à Châtelet, dans Paris. Et donc je serai présente aussi pour parler du film. Les avant-premières ont cet avantage, c'est que du coup, y a la réalisatrice, il y a des membres de l'équipe. Donc faut pas hésiter à réserver les places par téléphone en appelant le Forum des Images. La salle est très grande, donc voilà, pour ceux qui m'entendent, n'hésitez pas.
Alors, ça se trouve au Forum des Halles. C'est facile à trouver. Bon, il faut monter, descendre, etc. Mais c'est une autre question. Mais à propos encore de Alma Vive, il y a eu pas mal d'avant-premières, mais j'aimerais bien, Christian Lovjmer, qu'on parle des prix. Parce que le dernier en date, sauf erreur de ma part, c'était au Festival Cinéma de Montpellier, et c'était le prix des jurys des jeunes. Donc, c'est important si ces prix-là, et surtout celui-là, je ne sais pas si ça a de l'importance ou pas pour vous.
Ah oui, oui, ça a énormément d'importance, c'est parce que justement, je vous avoue qu'en faisant ce film, on fait un film, on a envie de raconter une histoire, on ne sait pas trop à qui il va s'adresser, ou en tout cas, moi j'essaie de pas trop penser au public quand je fais le film. Mais là, du coup, je ressens, le prix jeune, c'était des jeunes lycéens, des jeunes étudiants qui ont adoré ce film. Et encore hier j'étais à Brest aussi dans un festival, et il y avait énormément de lycéens dans la salle, ils étaient très émus par le film. Et voilà, ce prix jeune à Montpellier, c'était aussi la reconnaissance d'un public plus jeune sur ce film. Ça fait plaisir de les voir en salle, parce qu'on sait que c'est pas facile de les bouger en salle. Donc les festivals, ils sont importants pour ça, parce que les lycéens viennent et ils peuvent découvrir des films qu'ils vont pas voir sur leur tablette, qu'ils vont pas voir sur les offres VOD à la demande. C'est un film de cinéma, vraiment, avec des histoires qui sortent un peu des histoires efficaces qu'ils ont l'habitude de voir à la télé ou sur leur tablette. Et donc, les jeunes aiment beaucoup le film. Ils sont très touchés par cette histoire d'amour entre cette grand-mère et cette petite fille. Par cette petite fille, qui devient une sorte de petite guerrière, comme ça, dans le village, et qui va défendre ses idées. Donc c'est merveilleux. On a eu aussi d'autres prix. Un prix à Valladolid, en Espagne. Donc, le film a sorti en Espagne aussi. Je suis très contente. Et puis, on a été aussi primé à Bastia. Enfin, bon, il y a des prix qui tombent, c'est vraiment très heureux, parce que j'ai passé beaucoup d'années, tellement d'années à faire ce film. Je suis venue plusieurs fois à l'antenne d'ailleurs en parler au moment du casting, quand je cherchais justement ma petite fille, je faisais des appels à casting, parce que il y a beaucoup d'acteurs non professionnels dans le film, des gens que j'ai trouvé de la vraie vie. Je pense à Arthur Brigas qui est dans l'immobilier dans la vie, qui est qui fait un des frères dans le film, qui est incroyable. Je pense à la grand-mère, à la petite-fille, Salomé, Lou à Michel. Enfin, beaucoup des acteurs ne sont pas professionnels. C'est des gens que j'ai rencontrés en casting qu'on dit sauvage, c'est-à-dire casting de rue. Et je suis très fière de tous les gens de mon village aussi qui ont participé. Enfin voilà, c'est vraiment un portrait du Portugal, des femmes portugaises, de la ruralité, comme tu l'as dit tout à l'heure, Arthur. C'est vrai qu'on est, ça se passe dans un petit village à Trás-os-Montes, niché dans les montagnes. Et en même temps, il y a ce territoire portugais, il y a cette culture portugaise, elle est évidente. Et en même temps, il y a des thématiques qui parlent à tout le monde. Je vois bien des gens du monde entier qui me disent « Ah, moi, ça m'a fait penser aussi à mon histoire, à quand j'étais petite. » Parce que c'est un film qui renoue aussi avec les traditions. Et je crois que là, actuellement, dans le monde dans lequel on vit, on a aussi besoin de se rappeler d'où on vient, de se rappeler de nos ancêtres, de nos voilà, des mémoires des anciens. Et je pense que le film, il touche aussi parce qu'il va chercher de ce côté-là. Sur la transmission.
Voilà, alors, Almaviva, il y a une autre date, c'est le 17 novembre. Ça se passe à Cognac, dans le cadre du Festival Littérature Européenne de Cognac.
Oui, alors à Cognac, là, malheureusement, moi, j'y serai pas, mais il y aura le co-scénariste qui sera là pour parler du film aussi. Et Cognac, c'est un super festival aussi, donc il faut pas hésiter pour ceux qui sont vers là-bas. Il sera à Poitiers aussi, un peu plus tard, dans le mois de novembre. Là, j'ai plus la date en tête, mais il faut regarder Festival de Poitiers. Et puis, bon, bah nous, pour la bonne nouvelle, bon, ça va parler de moins à vos auditeurs, mais on part à Marrakech, justement, le 17, pour un festival très important, le Festival International de Marrakech, où là, on sera en compétition aussi, donc on croise les doigts. Et puis, en décembre, ça continue avec plein de festivals. En fait, jusqu'au mois de mars, on fait beaucoup de festivals. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, sur mon Instagram. Moi, j'accueille toujours les gens curieux de suivre mon travail. Je suis ravie qu'ils me rejoignent sur les réseaux sociaux et je poste beaucoup les dates, les actualités. Voilà, ça leur permet de suivre et ça me fait toujours très plaisir que le Portugal soit mis à l'honneur dans des projets culturels, au cinéma. On a encore tellement d'histoires à raconter sur notre vie, quoi. Et voilà. Et donc j'espère que vraiment les Portugais seront dans la salle, ils seront au rendez-vous parce que voilà, on peut être fiers. En plus, on représente le Portugal aux Oscars, c'est pas rien. On a commencé à Cannes, enfin, c'est une belle carrière. Ça a été très dur de le faire, ce film, je vous le dis. Hein. C'est presque 7 ans de ma vie. Donc aujourd'hui, je peux que me réjouir et profiter de tous les beaux retours, toute l'émotion que le public me renvoie aussi.
Christelle Angemel, merci. Et pour ceux qui sont dans la région parisienne, rendez-vous le mardi 15 novembre à 18h,
oui,
voilà, dans le cadre des forums des images. Au Forum des Halles, merci et bon vent, comme on a l'habitude de dire.
Merci Arthur pour l'invitation, à très bientôt.
On arrive pratiquement à la fin ce dimanche 13 novembre, passage au niveau à votre compagnie, émission, rediffusion la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h, ça y est, c'est bon. Alors, on a été à Cognac, maintenant on revient sur nos terres, c'est le cas de le dire, mairie du 7e une expo de peinture et sculpture de Nathalie France, le titre lusitanien, également la présentation du livre Art de l'art. Portugal, mon amour, Nathalie France, bonjour, boa tarde.
Bonjour, boa tarde.
Alors, Nathalie France, mairie du 7e. Bon, Madame Rachida Dati, c'est elle la maire du 7e arrondissement. Alors, cette expo, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Parce que l'expo, c'est Lusitania, donc dans le nom, il y a déjà une explication.
Alors, il y aura les 37 costumes traditionnels qu'on va retrouver également dans le livre, qui sont présentés, ainsi que des tableaux sur le thème du fado. Ils seront ici, et sculpture, bien sûr, toujours autour du thème du fado et du Portugal.
Alors, comment est-ce que vous avez eu l'opportunité, justement, de pouvoir exposer? Alors, il faut quand même que je dise les dates, c'est quand même mieux, ça sera pendant 6 jours, alors du 18 au 23 novembre.
Oui, de 11h à 18h, et l'entrée est libre.
Voilà, alors donc c'est la mairie du 7e. Comment est-ce que comment est-ce surgi cette opportunité d'exposer à Paris et dans une mairie d'arrondissement?
tout simplement par une amie proche de Madame Rachida Dati, qui est une amie aussi, qui est Fernande Novo, qui m'a offert l'opportunité de présenter mon travail à la mairie du 7e. Elle est du quartier en plus, elle est conseillère aussi à la mairie, donc voilà, elle m'a donné cette opportunité d'exposer dans un très très bel espace.
Alors, on peut dire que finalement c'est un prolongement de la saison croisée France-Portugal, puisque vous avez déjà participé avec le collectif Bold Lovers, l'expo Couple de rêve. Donc c'est une suite, hein, c'est une prolongation finalement de la saison.
Non, la prolongation, elle sera à Marly-le-Roi au mois de décembre.
Non, mais je dis quand
même. Non, là, on est sur autre chose, on est sur un travail. Et la prolongation d'un travail que j'ai fait il y a déjà 3 ans sur le Fado, où j'avais même remis un tableau avec Carl Zuckerm au musée de Fado, et j'avais fait toute une série sur le Fado que j'avais exposé à Chili Mazarin, et puis aussi à un défi qu'on m'avait lancé au mois de juillet de réaliser des costumes tous les matins, un costume traditionnel d'une région du Portugal. Donc le défi, je l'ai maintenu. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir des appuis, des amis aussi qui m'ont poussé à faire cette exposition et ce livre. C'est pour ça, principalement Joachim Barge, qui est vraiment mon grand soutien, voilà, que je tiens à remercier, et qui m'a présenté Fernanda Novo. Et c'est vrai que tout ce travail, c'est vraiment un travail de 3 années. 3 années de travail sur le Portugal.
Alors justement, dans les expos, bon, il y a les visiteurs, donc il y a toujours un vernissage, etc. Je pense que c'est une façon aussi de parler du Portugal, de présenter, parce que quand on parle de folklore et des vêtements, parce qu'on sait très bien, surtout au nord du Portugal, ils sont très très très, très riches du point de vue couleur et pas seulement. C'est une façon de parler aussi du Portugal, de la culture portugaise surtout.
Oui, et en plus, ce qui est très particulier, c'est que quand j'ai commencé ce travail sur les costumes traditionnels, les retours, je les ai eus, mais très 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 nombreux, des jeunes. Je m'attendais que ça touche plus un public de l'âge de mes parents, alors pas du tout, j'ai beaucoup beaucoup de jeunes qui ont été touchés, et j'ai travaillé sur les textes avec un ami à moi, Alain Girard, qui lui est breton, et tous ses amis bretons également ont dit « à quand ?» nous fera ainsi un livre aussi beau sur les costumes bretons. Donc, je me rends compte qu'il y a un attachement aux traditions et au folklore par une génération, une nouvelle génération. Et on le voit aussi dans les groupes folkloriques, il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent pour participer aux groupes folkloriques.
Nathalie Francis, il y a des gens qui disent certaines traditions qui sont disparues au Portugal et finalement sont des gens des Portugais qui ont immigré ou issus d'émigration portugaise et qui maintiennent haut la main ce flambeau-là. On vous a déjà dit ça, vous ?
Oui, déjà. Et justement, cette exposition partira ensuite mi-décembre au Consulat général du Portugal à Paris. Et pour cette occasion, on va inviter justement différents présidents de groupes folkloriques. Et au mois de janvier, on fait venir un groupe de janeiras dans la cour du consulat. Il y a énormément de groupes en France folklore qui refont revivre des traditions qu'on avait quand on était tout petit, comme à janeiras. Et ça, je trouve ça très beau. Et il y a aussi du côté de Montmagny, un groupe également de Politeiros, qui sont de Miranda do Douro. Donc, pareil, les Politeiros, j'ai découvert en faisant une fresque pour Miquel Moraes dans Casa Alegria, la Cava Vin dans le 17e. Je ne connaissais pas du tout la tradition de Politeiros. Et c'est ce que je trouve intéressant quand on organise des expositions comme celle-ci, c'est de faire découvrir non seulement aux Français, mais aussi aux nouvelles générations des traditions qui sont en train de revivre ou qui ont disparu, mais qu'on essaye de refaire revivre également à travers les groupes folkloriques.
Alors, pour les têtes de Miranda, Bretagne, on retrouve les cordemuses.
Oui, Agaïta.
Agaïta de Forge.
Oui, c'est les... ça, c'est les traditions. Et on le retrouve aussi dans tout, bah, dans tout, le, nord du, tout le nord du Portugal. Et j'ai aussi dans l'exposition des traditions de l'île de Madère, comme les porteurs de gens qui venaient en cure à Madère, qui les gens ne connaissent pas forcément. Donc c'est vrai qu'à travers cette exposition, les gens vont redécouvrir également des traditions et des costumes qui ont disparu.
Mmh. Bon, c'est très important, la mémoire, mais en même temps, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on oui. va. Donc cette expo Lusitania, voilà, cette expo Lusitania du 18 au 23 novembre à la mairie du 7e arrondissement oui. de Paris se trouve.
Je serai présente.
Voilà, le 116 rue de Garnelles, Paris 7e. Alors, revenons un petit peu à nos couples de rêve, Casage de Sogno. Alors, justement, alors, là, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour à la Maison du Portugal.
Oui, c'est le dernier jour, on décroche demain. et ça repart sur Marly-le-Roi. C'est vrai que c'est une exposition qui demande beaucoup physiquement, en fait, parce que c'est vrai qu'elle grossit et en plus, elle se déplace vraiment dans différents lieux et dans un cadre complètement différent. Donc à chaque fois, on s'adapte au cadre où elle est exposée.
Alors, quand on parle de Marly-le-Roi, je pense que l'exposition, pour l'avoir à la salle Jean Villard, mais alors justement, il y a un château à Marly-le-Roi, Monte Cristo.
Oui, Monte Cristo.
Donc automatiquement, ça veut dire que il y a des...
Il y aura un hommage.
À qui ?
Il y aura un couple. Ben, ça sera la surprise, parce que déjà, ben, il y aura Alexandre Dumas, mais il y aura un couple surprise qui sera donc présenté ce jour-là. Mais vous en aurez la
primeur.
En fait, sur Facebook, la primeur, voilà, je vous le dirai.
Bah, d'accord, avant que ça...
Avant que ça apparaisse
sur Facebook. Nathalie Afonso, je remercie. Donc, rendez-vous à partir du 18 et pendant 6 jours à la mairie du 7e, Lusitania, et parallèlement la présentation du livre Portugal Mon Amour, qui réunit en l'ensemble d'aquarelles représentant les costumes traditionnels des différentes régions du Portugal. Merci et bon vent, Nathalie.
Merci beaucoup, Arthur. Merci.
E bastamos a chegar ao termo desta emissão. Obrigado, Manuel Alexandre. E agora não se esqueça que na sexta-feira, dia 18 de novembro, grande noite de fado aqui na Sala Vasta Gama em Volanton, Cuca Rosete, Marco Rodrigues e Sara Correia. Reservas e informações 01-45-10-98-60 ou 01-45-10-98-70. Muito obrigado, bem-ajam e espero estar aqui na próxima semana à mesma hora.